Salut et bienvenue. C'est le pasteur Esther. Merci d'avoir choisi ce podcast. Je crois que Dieu a des choses surprenantes dans ton futur. C'est ma prière que tu reçoives une parole riche et encourageante en écoutant ce message. Le thème d'aujourd'hui, c'est se connaître soi-même en connaissant ses tempéraments. Je vais te poser la question, est-ce que tu sais que tu as un ou deux ou même trois tempéraments? On va en parler aujourd'hui. Alléluia. La raison pour laquelle on parle de ça, c'est parce que le tempérament constitue le moteur de base avec lequel nous avons été créés, n'est-ce pas? Nous avons été créés par Dieu avec certaines tendances, certaines forces naturelles et faiblesses. Le tempérament et le caractère sont deux choses différentes, ça il faut qu'on le sache. Et aujourd'hui, on va prendre le temps de pouvoir parler, de comprendre tout, comprendre les tempéraments, n'est-ce pas? Le tempérament, c'est quoi? C'est la méthode choisie par Dieu pour créer de la variété. Et je le dis, pour créer de la variété. Certaines personnes naissent avec une tendance au leadership ou à la jovialité. D'autres naissent avec une tendance à se laisser aller et à être facile à vivre. Et cela constitue la structure de base de nos émotions, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est important pour toi et pour moi de connaître notre tempérament? Je sais que tu veux savoir, n'est-ce pas? Moi aussi, je veux savoir. Nous devons connaître notre tempérament pour nous permettre de savoir quel genre de personne nous allons naturellement être attiré par, ok? Nous devons connaître notre tempérament parce que cela nous permettra de prendre conscience de nos forces naturelles. Nous devons connaître nos tempéraments parce que cela nous permettra de prendre conscience de nos faiblesses naturelles. Nous devons connaître notre tempérament parce que cela nous permettra d'accepter et de composer avec notre partenaire, donc notre conjoint dans le mariage, n'est-ce pas? Nous devons connaître notre tempérament parce que cela nous aidera à accepter et composer avec les gens avec lesquels nous travaillons ou entretenons des relations. Nous devons connaître notre tempérament parce que cela nous aidera à pardonner aux personnes qui nous blessent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il est important pour toi et pour moi de pouvoir connaître son tempérament. Ou bien ses tempéraments. Et je veux vraiment qu'on puisse porter attention à ce qui va être dit aujourd'hui parce que nous allons être bénis. Alléluia. Je ne sais pas d'où vous nous écoutez, mais je sais une chose, c'est que vous allez être bénis et je vais être béni aussi. D'abord, il y a 4 tempéraments fondamentaux qui existent. 4. Et je me base sur Proverbe chapitre 30. À partir du verset 11 jusqu'au verset 14, et je lis. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race, verset 12, qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Verset 14, il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Donc, tous ces 4 versets-là constituent les 4 types de tempéraments. Le premier type qu'on trouve dans le verset 11, c'est quoi? C'est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Ceux-là, ce sont les mélancoliques. Je vais rentrer dans les détails de chaque tempérament au fur et à mesure qu'on continue. Donc, le tout premier verset, le verset 11, cette race-là, ce sont les mélancoliques. Deuxième race, c'est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Le verset 12 nous le dit, de Proverbe 30. Et cette race-là, c'est les flegmatiques. Eux, ils se croient bien. La troisième race de personnes, c'est quoi? C'est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Proverbe 30, verset 13 nous le dit. Ça, ce sont les sanguins. Et le quatrième type, c'est quoi? C'est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Ça, ce sont les colériques. Maintenant, la combinaison des gènes et des chromosomes de nos parents ou grands-parents au moment de notre conception détermine notre tempérament de base. C'est ce qui explique nos actions, nos réactions et nos émotions. Est-ce que je parle à des gens? Maintenant, je veux commencer par parler du tempérament des sanguins, donner un peu plus de détails sur chaque tempérament, ok? Le tempérament des sanguins. Quelqu'un qui est sanguin, il est quoi? D'abord, pour reconnaître un sanguin, c'est quelqu'un qui est bruyant, il fait beaucoup de bruit. Lui, partout où il est, il n'y a pas de calme, il fait le bruit. Il est chaleureux, ok? Il est amical, il a beaucoup d'amis, ok? Il est gai, il est extroverti, ça veut dire qu'il parle, il souffre facilement, ok? Il aime s'amuser, il parle, il a de la personnalité, il a du charisme, et il a, en tout cas, il a beaucoup de charme à revendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il participe à une fête, tout le monde s'y met, ok? Le sanguin, c'est quelqu'un qui est bavard et il est enthousiaste. N'oubliez pas que Dieu nous a créés avec des faiblesses, des qualités, des forces naturelles, ok? Donc, le sanguin, il est stimulant, ok? Il vous encourage, il est stimulant. Et puis, il aime la communication et la communion. Le sanguin, il s'exprime en public en racontant des histoires, en conversant, en exagérant par des actions. Il a tendance à attirer l'attention du public, ok? Donc, il dit rarement également des choses vicieuses sur les autres. Donc, ce sont ses forces naturelles, ok? Il ne parle pas mal des autres, il est chaleureux, il est amusant, il y a des gens comme ça. Quand vous voulez organiser une fête et que vous invitez des sanguins, votre fête donc va réussir. Parce qu'ils vont mettre l'ambiance, ils vont vous faire rire, tout ce qu'ils vont faire sera intéressant. Est-ce que nous sommes là? Maintenant, les faiblesses d'un sanguin. Le sanguin, c'est vrai qu'il est plein de vie, il bouge par-ci, par-là, il est enthousiaste, il est extroverti et tout ça. Mais l'une de ses faiblesses, c'est quoi? Il manque de discipline. Il a tendance à exagérer. Il y a des gens, hein, quand vous leur dites une petite histoire, ils vont ajouter du cube magique dedans. Ils vont mettre du piment dedans. Ils n'aiment pas raconter les choses telles qu'elles sont. Et généralement, ce ne sont pas de bons prophètes à moins qu'ils soient totalement brisés. Est-ce que vous comprenez? Parce que si un sanguin est prophète, comment est-ce qu'on va savoir que ce qu'il dit là vient textuellement de Dieu ou bien il a ajouté beaucoup dedans? Est-ce que vous comprenez? Donc, il manque de discipline et il a tendance à exagérer. Et il exagère parce qu'il veut qu'on puisse, parce qu'il veut épater son public. Il est désorganisé. Et je vous signale que quand il exagère, là, c'est des mensonges ou rien d'autre. OK? Donc, il est désorganisé et il a un tempérament enflammé. OK? Et il est susceptible d'être infidèle. Pourquoi? Parce qu'il est instable. Le sanguin manque de volonté. Vous êtes là avec moi, il manque de volonté. Maintenant, dans les finances, son côté faible, c'est quoi? Il est indiscipliné par rapport à l'argent et dépense n'importe comment. Il n'a aucune difficulté ou bien contrainte et il dépense souvent trop. Et le sanguin, c'est quelqu'un qui peut être pauvre malgré les bonnes opportunités. Pourquoi? Parce qu'il gaspille. Côté émotionnel, il est trop émotif. À un moment, il pleure. Le moment d'après, c'est fini, il rit. Il peut être en train de pleurer avec toi aujourd'hui parce que tu as perdu quelqu'un ou bien il y a eu un accident. Il pleure avec toi, oh yo! Et puis tu te dis, oh, voici un ami fidèle, vraiment, il est touché par ma situation. La minute qui suit, quand on dit quelqu'un se marie, il crie, yeah, alléluia, alléluia. Et puis toi-même, tu es surpris, tu te dis, mais ah, mais c'est pas lui-là qui pleurait tout de suite, là. Oui, mais il a fini avec toi. Il a fini avec toi. Il a participé à ton malheur, mais il continue. Ça, tu comprends. C'est pas qu'il est mauvais, mais il a fini avec toi. Il faut aussi qu'il soit avec l'autre. Donc, si l'autre célèbre son mariage, il faut qu'il soit content. Est-ce que vous comprenez? Donc, lui, il est très émotif. Ce qui est émotion, c'est le sanguin. Est-ce que vous êtes là? Donc, il peut rire avec quelqu'un aujourd'hui. Et puis, la seconde qui suit, il pleure avec l'autre, une autre personne. Pour lui, ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est totalement normal. C'est totalement normal. OK? Et puis, le sanguin, il se met facilement en colère. Mais en même temps qu'il se met facilement en colère, il pardonne aussi facilement. Est-ce que nous sommes là? Il pardonne facilement. Si tu as une affaire avec un sanguin, ne te fatigue pas. Parce qu'il va crier tout de suite, mais dans la minute qui suit, il va te pardonner. C'est comme ça qu'il est. Il est émotif. OK? Il te pardonne aussi facilement. Le moment qu'il s'est fâché avec toi, là, c'est comme ça aussi qu'il te pardonne facilement. Amen. Quelqu'un qui commence à se reconnaître. Et un sanguin, comme faiblesse, il peut être sujet au changement d'humeur brusque. Il change d'humeur brusquement. Tu as maintenant de poser la question, mais on est où là? Oui, c'est le sanguin. Il a changé d'humeur. On arrive là-bas. Est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent? Côté spiritualité, il manque d'organisation. Un sanguin, c'est quelqu'un qui manque d'organisation. Et il peut être également très charnel. Pourquoi? Parce qu'il est en quête d'émotion à chaque fois. Et c'est des gens aussi qui s'ennuient vite. Parce que s'ils sont quelque part où il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de de mouvement et de tout ça là, ils commencent déjà à s'ennuyer. Est-ce que vous comprenez? Il peut être très charnel, il va suivre le mouvement. Regardez un peu parmi les disciples de Christ, la personne qui était le plus sanguin, c'était Pierre. D'une minute, il rit avec tout le monde. Il dit, Seigneur Jésus, c'est toi qui es le Messie, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le Très-Haut. Ah, Jésus-Christ même le félicite, le promeut. Dans la minute qui suit, il dit à Jésus, arrête de toi. Amen. Il dit à Jésus, que cela ne fasse, tu ne mourras pas. Et Jésus lui dit, arrête de moi, Satan. Est-ce que vous comprenez? Il ne comprend pas, il est juste content. Il fait juste du bruit. C'est des gens qui parlent, ils ne réfléchissent pas beaucoup, OK? Ils réfléchissent après avoir parlé. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ce n'est pas de ses faiblesses. Et comme je disais, côté engagement également, c'est un peu bancal. Il perd facilement son intérêt. Vous allez voir que les sanguins, ils s'ennuient. Amen. Si les gens ne sont pas intéressants, vous n'allez pas les voir là-bas. OK? Ils perdent facilement l'intérêt. Et comme défaut, ils peuvent être infidèles et manquer de volonté, en particulier si leur conjoint n'est pas intéressant. Est-ce que vous êtes là? Côté foyer, ils sont désorganisés et jettent leurs affaires n'importe où. Ils sont sales. Côté relation, ils peuvent facilement passer d'une relation à une autre. Eux, ils n'ont pas de problème. Est-ce que vous êtes là? Ils n'ont pas de problème. Tu déconnes avec eux. Ils zappent vite. Ils zappent même vite. Eux là, ils ne se sentent pas mal. Est-ce que vous comprenez? Ils zappent vite et ils sont très désorganisés. Donc, si nous prenons le côté seulement des sanguins, vous allez voir que l'un de leurs défauts, l'une de leurs faiblesses, c'est quoi? C'est la désorganisation. Donc, si quelqu'un se trouve dans cette catégorie-là, je t'ai dit tes faiblesses, je t'ai dit tes qualités. Maintenant, avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit, quand il arrive dans ta vie, il t'aide à être organisé. Il t'aide à pouvoir avoir des priorités et à pouvoir les suivre. Il t'aide à être stable. Voici pourquoi
Jésus-Christ a pu dire à Pierre, tu es Simon, et maintenant je t'appelle Pierre. Simon, c'est quoi? En plus de son tempérament sanguin, il était aussi très instable. On peut même le voir, lui, il parle n'importe comment. Amen. Du jour au lendemain, il est ici, il est là-bas. Mais Christ lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es Céphas. Céphas veut dire Pierre. C'est dit que quoi? Quand il a rencontré Christ, l'une des missions de première de Christ, avant qu'il ne puisse l'utiliser, était de le rendre stable. Voici pourquoi vous allez voir que le rôle de votre pasteur, c'est de vous emmener à être stable dans la foi. Vous emmener à rester tranquille. Amis, les sanguins peuvent quitter l'église à n'importe quel moment. Et ils ne réfléchissent pas, ils s'en vont seulement. En quête d'émotion, en quête de joie. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous vous trouvez là, vous devez prier et demander au Saint-Esprit de vous aider à pouvoir être stable et à pouvoir être organisé. Dieu est organisé, il n'est pas confus, il n'est pas désorganisé. Voici pourquoi quand il arrive dans ta vie, il va t'emmener à être organisé et il va t'emmener à être stable. Quelqu'un dit un grand amen. Nous sommes en train de continuer et on a parlé du tempérament des personnes sanguines. Le tempérament dont je veux parler maintenant, c'est le tempérament des colériques. Les colériques ont un tempérament bouillant. Ils sont vifs, ils sont actifs, ils sont pragmatiques et ils sont volontaires. C'est-à-dire que quoi, on ne les force pas pour faire des choses, ça vient d'eux-mêmes. Ok? Et il se suffit à lui-même ou bien à elle-même. Et il est très indépendant. Ça, c'est un colérique. Il est indépendant, il se suffit lui-même, il est bouillant, c'est-à-dire qu'il est chaud, il est vif, il est actif, il est pragmatique et il est volontaire. C'est-à-dire que quoi, on ne le poursuit pas pour faire quelque chose. Il est opiniâtre et il prend facilement des décisions pour lui-même et pour les autres. Et il a aussi souvent besoin de prendre les choses en main. Si vous voyez quelque part quelqu'un qui, il prend des décisions, il est devant, il a le devant des choses. Généralement, les colériques sont de bons leaders, sont des leaders naturels. On ne les force pas, on ne les entraîne pas. C'est dans leur sang. Est-ce que vous comprenez? Ils sont extrovertis, c'est dit que quoi? Ils parlent. Mais ils ne sont pas extrovertis à l'extrême. Okay. Ils ont des réserves. L'activité stimule les colériques. Et pour lui, l'activité, c'est la vie. Et la vie, c'est l'activité. Vous allez voir qu'il y a des gens qui bougent seulement. Look, même on dit dans le temps de confinement, et ils vont trouver quelque chose à faire. On dit on ne sort pas, ils sont confinés. Eux, ils sont à la maison, mais ils sont occupés. Ça, c'est le colérique. Est-ce que vous comprenez? Pour eux, ils aiment l'activité. Pour eux, l'activité, c'est la vie. Et la vie, c'est l'activité. Si tu veux vraiment faire du mal à un colérique, il faut lui dire de s'asseoir et de ne rien faire. Tu l'as tué. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas besoin d'être stimulé par son environnement, mais il stimule son environnement par des idées, des projets, des objectifs et des ambitions. Oh, si tu es avec un colérique, tu vas aimer ça. Parce que tu ne vas pas t'ennuyer avec lui. Il va toujours mener des choses. Projet ici, on fait ça, on bouge, on fait ceci. Ça, c'est le colérique. Il ne manque pas d'ambition ni d'objectif. Est-ce que vous êtes là? Et il se lance rarement dans des activités sans but à cause de son esprit pragmatique et vif. Donc, lui, quand il commence quelque chose, c'est avec un but. Ok, et il est vif. Il est capable de prendre des décisions judicieuses et instantanées et de mettre au point des projets intéressants. Il ne se laisse jamais influencer par ce que pensent les autres. Il prend des décisions fermes et milite souvent contre les injustices sociales, par exemple. Il ne se laisse pas décourager par les problèmes, mais au contraire, les problèmes le poussent à trouver des solutions. Le colérique est ténace. Il réussit souvent là où d'autres ont échoué parce que les autres se découragent et abandonnent, tandis que le colérique va résolument de l'avant. Quelqu'un dit « Amen ». Le colérique est un leader. Il est né leader. Et dans le monde des affaires, on le qualifie de leader né et fort. Quand vous voyez un colérique, vous allez dire que lui-là, il n'a pas de faiblesse. Il est fort, il est toujours en forme, apparemment. Hein? Il organise, il planifie, il prend des décisions. Amine, c'est quelqu'un qui avance. Le colérique poursuit des valeurs utiles et productives dans la vie. Quand il est chrétien, il est souvent très, 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 très dévoué. Il est quelqu'un de très ouvert et honnête, parfois même trop. Côté finance, on parle des forces ici. Hein? Côté finance du colérique, c'est un chef de file qui a du succès. C'est un grand pourvoyeur. Il ne veut pas que son conjoint et ses enfants manquent de quoi que ce soit. Et il ne comprend pas pourquoi il devrait y avoir un problème après qu'il ait fait tout ce qu'il faut dans ce sens. Côté spirituel, c'est un chef de file, c'est un pionnier et c'est un bâtisseur. Le colérique, c'est quelqu'un qui travaille dur. Hey! C'est qu'il y a des gens qui disent « Eh wow! » Oui, c'est ça. Dis bien « Eh wow, on arrive chez toi. » Le colérique a tendance à croire davantage en ses propres forces qu'en Dieu. Côté engagement, il est très engagé. Il est tenace et c'est ça qui lui permet de réaliser des choses. Même lorsqu'il n'est pas dévoué ou bien même quand il n'est pas doué. C'est le côté tenace là qui lui permet de pouvoir réaliser des choses. Est-ce que vous comprenez? Les faiblesses maintenant du colérique. Ses émotions sont l'aspect le moins développé de son tempérament. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand vous regardez un colérique, c'est comme s'il n'a pas d'émotion. Il est dur, en fait c'est ça, il est dur. Il ne compatit pas facilement aux problèmes des autres et ne montre ni il n'exprime aucune compassion de façon naturelle parce qu'il est dur. Quand vous voyez un caillou, est-ce que le caillou exprime la compassion? Non. Est-ce que vous êtes là? Et le colérique est souvent embarrassé ou dégoûté par les larmes des autres. Colérique. Et il est souvent insensible à leurs besoins. Le colérique apprécie peu la musique et les beaux-arts, sauf s'il est mélancolique. Ok, on arrive là-bas. Et sa plus grande faiblesse, c'est la colère. Il se fâche vite, d'où son nom colérique. Il se fâche vite, il s'enflamme vite. Les colériques sont des personnes extrêmement hostiles. Ils se servent de leur colère comme d'une arme pour obtenir ce qu'ils désirent parce qu'ils se rendent compte que leur éclat effraie souvent les autres. C'est-à-dire leur apparence, quoi, ça effraie les autres. Et le colérique est capable de faire mal volontairement à quelqu'un et de s'en réjouir. Et s'il est marié à une femme, elle a peur de lui et il a tendance à terrifier ses enfants. Il est du genre à claquer les portes, taper du poing sur la table et klaxonner. Quiconque se trouve sur son chemin l'empêche d'avancer ou n'atteint pas le niveau de performance qu'il attend de lui, fait les frais de sa colère. Les colériques ont tendance à garder rancune pendant longtemps et ils ont souvent des ulcères vers la quarantaine. Hey! Les colériques sont sarcastiques. Aïe, 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 aïe. Et il peut faire des remarques très critiques qui peuvent froisser ceux qui manquent d'assurance et décourager les moins combatifs. Le colérique, il a beaucoup de faiblesses. Oh. Il laisse souvent derrière lui une série de personnes traumatisées et d'égo brisés parce que les autres tempéraments plient face au traitement qu'il leur inflige. Est-ce que les gens vont changer? Le colérique, il est le plus affectueux de tous les tempéraments. Et la pensée de voir se montrer affectueux en public le met émotionnellement mal à l'aise. Pour lui, se montrer affectueux envers son épouse signifie lui faire un bisou le jour du mariage, puis tous les 5 anniversaires par la suite. Il est si obstiné et désire tellement faire ce qu'il a envie de faire qu'il peut recourir à la ruse pour obtenir ce qu'il veut. Est-ce qu'on a vu les faiblesses du colérique? Est-ce que quelqu'un se retrouve? Côté émotion, il a du mal à comprendre les choses émotionnelles et à s'y identifier. C'est-à-dire qu'il ne comprend même pas pourquoi mais les gens sont émotionnels, pourquoi tu pleures. Mais toi-même, il y a quoi? Depuis la fin, elle est finie, tu continues encore. Il ne comprend pas. Il ne s'identifie pas à ça. Est-ce que vous avez compris? Il a un problème avec la colère et le pardon. Il peut se retrouver à penser davantage en termes de ce qu'il a accompli plutôt que de grâce de Dieu. Donc, le colérique met l'accent sur sa force parce que naturellement, il est fort, ok? Le colérique, c'est quelqu'un qui ne dit pas souvent « Oh, mais je vais faire ça grâce à Dieu. » Il se lève et puis il fait sa chose. Est-ce que vous êtes là? Et puis, il avance. Donc, nous sommes en train de parler des différents tempéraments si vous nous prenez en marche. Le colérique est extrême dans ses émotions et il est bouillant ou bien chaud. Et il peut rentrer dans une fureur et exploser de colère en un rien de temps. Est-ce que je parle à des gens? Il est important pour nous de pouvoir réaliser que notre tempérament est notre base. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce que non seulement de la manière dont Dieu t'a créé là, il faut que tu le saches, il faut que tu connaisses tes forces, il faut que tu connaisses tes faiblesses. Comme ça, tu sauras comment prier par rapport à ton tempérament parce que c'est vrai que tu as un tempérament, mais également ton tempérament est différent de ton caractère. Et le caractère, c'est le résultat des influences extérieures sur toi. C'est le résultat de l'influence de la parole de Dieu, de l'éducation que tu as reçue, de l'école dans laquelle tu es parti et ton parcours et les expériences de la vie. Et tout ça, la forme ton caractère qui est différent de ton tempérament. Donc, je parle du tempérament parce que c'est le moteur avec lequel Dieu nous a créés. Et je dis bien, Dieu nous a créés. Et il nous a créés tous différents afin que nous puissions être différents et afin que le monde soit plein de variété. Et je reviens juste après cette pause. Si tu reçois cette parole-là, dis Amen. Et je ne peux pas finir sans toutefois prier avec toi. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Fais cette prière-là après moi. Dis, Père éternel, je te dis merci. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi tous mes péchés. J'accepte ton Fils Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, viens et règne en maître dans ma vie. Délivre-moi de tout mal et que ta volonté se fasse dans chaque aspect de ma vie. En ton nom, Seigneur Jésus, j'ai prié et je dis Amen.
Merci d'avoir écouté ce message. J'espère que cela t'a fait du bien. Rassure-toi de souscrire afin que tu reçoives tous les messages. Sache que nous prions pour toi. Dieu te bénisse. Salut et bienvenue. C'est le pasteur Esther. Merci d'avoir choisi ce podcast. Je crois que Dieu a des choses surprenantes dans ton futur. C'est ma prière que tu reçoives une parole riche et encourageante en écoutant ce message.
Alléluia! Et nous sommes en train de continuer. Donc, dans la première partie, si vous avez suivi, j'ai parlé des tempéraments, ok? De deux tempéraments, et je vais continuer avec deux autres tempéraments. Et la raison pour laquelle j'enseigne sur les tempéraments, c'est parce que tu dois te connaître. Tu dois savoir pourquoi est-ce que tu agis d'une certaine manière, pourquoi est-ce que tu n'es pas comme les autres, et qu'est-ce que tu as de spécial afin que tu puisses exploiter ça et que tu puisses également voir, connaître tes faiblesses et puis laisser l'Esprit Saint influencer ton tempérament afin que tu sois un bon conjoint et une bonne conjointe pour la personne qui va t'épouser. Quelqu'un dit Amen. Et nous avons parlé des sanguins et des colériques. Maintenant, nous allons parler des mélancoliques. Le mélancolique, comme point fort, il est beaucoup analyste. Il analyse les choses. C'est quelqu'un qui se sacrifie naturellement. Il est doué et il est perfectionniste. Ah, si vous vivez avec un mélancolique, ce n'est pas une mince affaire. C'est eux-là qui aiment que si les rideaux sont marrons, Les chaises doivent être marron. C'est des gens qui sont très particuliers avec les choses qui sont autour d'eux. Et c'est le genre de personnes qui peuvent être difficiles à vivre parce qu'ils sont perfectionnistes. Et la perfection ne vient pas de ce monde-là. Mais eux, ils veulent que les choses se passent à tout prix comme ils veulent. Ils veulent que, les choses soient paix, comme ils veulent. Et c'est des personnes qui sont très douées. Est-ce que vous êtes là? Ils sont sensibles émotionnellement. Et ils trouvent du plaisir dans les beaux-arts, les dessins, la nature. Le mélancolique peut se réveiller le matin et puis regarde la nature, il respire le bon vent. Il regarde autour de lui. Il se sent bien quand il regarde la nature. Il aime les beaux-arts, quand il voit les tableaux. Tout ce qui a trait à l'art, ils aiment ça. Et ils sont des personnes très fidèles. Mais ils sont difficiles à se faire des amis. Ils sont très fidèles quand ils tombent pour amis. Ils sont là avec toi jusqu'à la fin. Et ils sont très émotionnels. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont difficiles à avoir des amis. C'est-à-dire que quoi, pour être l'ami de quelqu'un qui est mélancolique, ça va te prendre un long moment. Et ils font rarement l'effort d'aller vers les autres. Donc, si tu m'écoutes et que tu es quelqu'un, c'est pas que tu n'aimes pas les gens, hein, mais tu te fais difficilement des amis. Et tu vas difficilement vers les gens. Tu as un petit côté mélancolique. Est-ce que nous sommes là? Mais c'est vrai qu'il a des difficultés à laisser les gens, à aller vers les gens, mais il laisse plutôt les gens venir à lui. Il est plus fiable, c'est le plus fiable de tous les tempéraments, ok, à cause de sa tendance à la perfection. Il désire fortement être aimé par les autres. Il veut, le mélancolique veut être aimé par les autres. C'est lui que... ils ne sont pas comme les sanguins. Tu les aimes ou tu ne les aimes pas. Eux, ils s'en foutent. Ils font du bruit. Ils avancent. Mais les mélancoliques, ils sont très particuliers là-dessus. Il faut qu'ils se sentent aimés. Est-ce que vous comprenez? Et ils analysent les choses. Et ils arrivent à détecter avec exactitude les problèmes, les dangers des projets à la planification duquel ils participent. Mais s'ils participent à un projet, ils vont réfléchir. Ils vont vous dire vraiment, quels sont les dangers, les obstacles à ce que nous sommes en train de faire comme projet? Aussi, avec la perspective de démarrer de nouveaux projets, ça ne les enthousiasme pas. Est-ce que vous comprenez? Ils ne sont pas enthousiastes à l'idée de pouvoir organiser ou bien démarrer de nouveaux projets. Ils peuvent occasionnellement réaliser de grandes œuvres d'art. Mais ces réalisations-là sont suivies de longues périodes de dépression. Merci, les mélancoliques sont très dépressifs. Le sacrifice personnel est ce qui donne le plus de sens à sa vie. Donc, le mélancolique, c'est quelqu'un qui se sacrifie, il trouve son plaisir. Pour lui, sa vie, c'est se sacrifier pour les autres. Est-ce que vous êtes là? Et il choisit souvent une vocation difficile qui nécessite des sacrifices. Ça c'est... de façon normale pour lui. Il choisit ça normalement, ok? Et il n'y a rien que tu ne puisses faire. Il est attiré par ça à cause du tempérament qu'il a. Et aucun autre tempérament n'a autant de potentiel naturel que le mélancolique lorsqu'il est stimulé par le Saint-Esprit. Il peut réaliser son potentiel s'il pense aux aspects positifs de la vie. Loue Dieu et se montre reconnaissant. Mais comme je vous ai dit là, le mélancolique, on l'appelle aussi le tempérament noir, le tempérament sombre, parce qu'ils sont très dépressifs et ils deviennent tristes pour un rien. Et pendant une longue période, ils sont déprimés la plupart du temps. Est-ce que vous êtes là? Il peut être riche parce qu'il se suffit à lui-même et il travaille dur. Et le mélancolique est quelqu'un qui écoute beaucoup les autres. Il peut être dévoué et faire des sacrifices personnels, comme on le dit. Donc, on peut voir ici que l'une des forces du mélancolique, du tempérament mélancolique, c'est le sacrifice. Okay? et il est dévoué, il peut être dévoué et faire des sacrifices personnels. Il est très fidèle et très loyal, ce qui le rend productif. Pourquoi? Parce qu'il s'assoit quelque part et il donne de son tout et il se sacrifie. Quand c'est comme ça, ça le rend productif. Et le mélancolique est très ordonné. C'est le genre de personne, si il ne repasse pas un habit, ils ne peuvent pas porter. S'ils ne repassent pas leur slip, ils ne peuvent pas porter. S'ils ne repassent pas un drap, ils ne peuvent pas porter. Amine, moi, je connais quelqu'un comme ça. Ah, ce n'est pas... Moi, je n'ai jamais entendu ça de toute ma vie. Je rentre dans sa chambre un jour et je lui pose la question, mais pourquoi est-ce que ton lit est sans drap? Et elle me dit, je ne peux pas dormir sur un drap qui n'a pas été repassé. Ah! Donc, tu préfères dormir sur le lit comme ça, sans drap, pendant des jours, jusqu'à ce que ton zèle arrive, avant de repasser le drap pour dormir dessus. Je n'avais jamais entendu ça. Mais ça, c'est le mélancolique pour vous. Est-ce qu'on comprend? Ils sont ordonnés. Et je connais des mélancoliques que quand tu dors avec eux, hein, ils sont là comme ça, ils dorment. Et puis quand le lit est désordonné, au milieu de la nuit, ils vont réveiller leur conjoint pour dire « Lève-toi, le lit est désorganisé, il faut qu'on arrange le lit. » J'ai déjà entendu beaucoup de choses comme ça. On va te réveiller à 2h du matin. Pourquoi? Parce que la personne a vu que le lit est désordonné, donc on doit arranger le lit. Ça, c'est le niveau de perfection qui dérange et qui fatigue. Et ce genre de personnes-là, ils sont toujours attirés par les sanguins. Ceux qui ne font pas attention, ceux qui sont désorganisés, c'est ce genre de personnes-là qui les attirent, qui les font rire. Amine. Et le mélancolique, quand vous le voyez même arriver, vous savez qu'il est mélancolique. Parce que tous ses habits sur lui sont dressés comme quelque chose. Repassés à la lettre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Repassés à la lettre. Ils sont propres. Ils sont organisés. C'est le genre de personne, la chemise doit aller avec la chaussure. La ceinture doit partir avec le sac. La barrette dans les cheveux doit partir avec la couleur de lèvres. Amine, ils sont perfectionnistes. Et leur manière d'être organisée dérange. C'est beau, c'est vrai. Mais quand vous vivez avec, après ça dérange. Quelqu'un dit, ah, j'ai compris. Donc, ils sont très organisés. OK? Et ils ont tendance à la perfection. Maintenant, les faiblesses du tempérament mélancolique. Sa première réaction pour tout est négative. Il a souvent des pensées négatives et aggrave les problèmes en les verbalisant, ce qui consterne son épouse ou bien son époux, ses enfants et ses amis. Ils sont négatifs. Ils aggravent les problèmes. Le mélancolique est négatif. C'est pourquoi on l'appelle le tempérament sombre. C'est eux-là qui peuvent facilement dire « je veux me tuer ». Je suis triste aujourd'hui. Et vous voyez, les mélancoliques, c'est ceux-là, quand ils sont tristes ou bien ils ont un événement, quelque chose qui les arrive, hein, ils restent dans la chambre pendant des jours, ils ne veulent pas voir quelqu'un, ils ne veulent pas voir la lumière du jour, ils restent dans la chambre, ils ferment le rideau, ils éteignent la lumière et puis ils se couvrent sous les draps et puis ils ne veulent voir personne, ils ne veulent rien entendre, ils sont là et vous voyez que généralement leur visage est boing. Ça veut dire quoi, boing? Elle dit, Maria, il faut changer. Je vais changer. Ils sont moches quand ils les voient. Quand je dis moches, hein, c'est dire qu'ils manquent de joie sur leur visage, à moins qu'ils soient combinés avec un autre tempérament. Ils sont moches. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps tristes, ils sont négatifs. Et quand vous avez de pensées négatives, hein, ça affecte votre tempérament, ça affecte votre journée, ça affecte votre relation avec les autres. Les mélancoliques, ils peuvent enlever votre numéro de leur téléphone, point rien. Ils peuvent vous bloquer sur WhatsApp, point rien. Ils peuvent rire avec vous, puis du jour au lendemain, ils n'ont plus rien à foutre avec vous. Amine, malheur pour quelqu'un, si le mélancolique qui est son ami, bien son conjoint, hein, a de mauvaises pensées. Parce qu'eux, ils sont remplis de mauvaises pensées. Ils ne voient pas la vie en rose à tort. Voici pourquoi l'Esprit Saint est très important dans notre vie. Parce que pour tous les tempéraments, l'Esprit Saint a quelque chose à faire dans notre vie. À corriger, à toucher, afin que nous soyons agréables à vivre. Imagine, tu as vu la sœur, elle est chic, elle est toujours bien mise et tout ça là. Et toi, le sanguin, tu dis, voici la femme de ma vie. Tu vas la marier, elle est toujours triste. C'est cela pour résoudre les problèmes de foyer. Il commence à pleurer. Oh, oh, j'ai mauvais chez maman. Oh, j'ai mauvais chez papa. Oh, tu me maltraites. Quand on veut régler un petit problème, c'est les larmes. Ils sont déprimés ici. Et pendant des jours, ils ne se laissent pas faire. Le visage est serré. Ils ne parlent pas. Quand ils ont un petit souci. Et eux, ils sont introvertis. Ils ne parlent pas beaucoup. Quand ils doivent parler, il faut les forcer à parler. Ou bien ils doivent se sentir d'abord en confiance avant de pouvoir parler. Et c'est compliqué. Cause, eux là aussi, ils sont suspicieux. Ils soupçonnent tout le monde. Est-ce que vous voyez? Donc, comme je dis, généralement, comme faiblesse pour le mélancolique, ils souffrent de dépression. Ils examinent constamment la vie spirituelle et se trouve toujours des défauts. Même s'ils sont forts, probablement plus dévoués que les autres, ils se trouvent toujours des défauts. Quelqu'un dit, ah, pasteur Esther, je comprends pourquoi je suis comme ça maintenant. Et ils manquent d'assurance. Ça, c'est leur défaut. Et ils ont besoin d'être stimulés de façon, par l'extérieur, ok, par Dieu, par les autres, ou par des projets. Ils ne se stimulent pas d'eux-mêmes comme le colérique, ok? Et quand vous voyez la plupart des prophètes de la Bible, il semble qu'ils aient été des mélancoliques. C'est le cas, par exemple, de Moïse, d'Élie, de Jérémie, ok? Jérémie, lui, on l'appelait le prophète pleureur. Il pleure seulement. Quand Dieu parle seulement, est-ce que vous voyez que Dieu nous connaît, nous tous? Et il est aussi sujet au changement d'humeur et il peut être très sensible. Et ils sont introvertis et ils ont des humeurs variées. Aujourd'hui, il rit, demain, il rit pas. Et puis après, la semaine qui suit, il rit. Et ce qui est bien avec les mélancoliques, c'est que quand ils sont tristes comme ça, là, c'est « laisse-moi célébrer la dépression qui est arrivée ». Maintenant, quand ils sont en joie, ils espèrent que tout le monde autour d'eux soit en joie et participe à leur joie. Quelqu'un dit « I see you ». Et à quelques moments, le mélancolique peut se montrer extroverti à certains moments. Hein. Mais à d'autres moments, il est triste, il est déprimé à d'autres, comme ce que j'ai dit. Et quand il est triste, il se met en retrait. Il ne veut rien voir. Amine, moi je connais quelqu'un. Ah, la personne est triste. Qu'est-ce qu'il y a pendant 3 jours, 4 jours? C'est comme si tu es la base du problème de la personne. La personne s'en fout qu'elle est avec toi. La personne est là dans son coin. Si je veux serrer mon visage, je serre mon visage. C'est ma vie. Le mélancolique ne prête pas attention à ce qui se passe autour. Lui, son émotion, c'est son émotion. Son visage, c'est son visage. Sa vie, c'est sa vie. C'est ceux-là qui ne prêtent pas du tout attention aux gens qui sont autour. Ils ne se disent pas que, ah, la manière de serrer mon visage là, est-ce que ça n'a pas affecté les autres? Et ils aiment affecter négativement les autres de par leur mauvaise humeur. Et vous allez voir que la plupart du temps, ils sont dedans, dans cette mauvaise humeur-là, dans la dépression. Pourquoi? Parce qu'ils sont négatifs. Est-ce que vous êtes là? Ils sont rigides, ils sont calculateurs et ils sont avares. Ils calculent tout et ils sont avares. Avare veut dire quoi? Partage pas. Ils gardent beaucoup de choses à l'intérieur d'eux. Et quand vous les touchez, ça sort un coup, pof! Et tu te poses la question, mais depuis on est ici, là, pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Ils gardent les choses à l'intérieur d'eux. Est-ce que vous êtes là? Et puis, l'une des faiblesses du colérique et du mélancolique, c'est que quoi? Il voit le côté négatif des choses et il critique ce qui fait de lui une personne difficile à côtoyer. Et il se peut qu'il ne parle pas beaucoup à la maison. Il a besoin de beaucoup d'amour. Si tu veux savoir comment marcher avec un ami mélancolique, il y a un conjoint mélancolique, il faut généralement les amadouiller. Quand tu les amadouilles, tu les chéris, ils sont contents et ils se sentent en sécurité. Et des expériences décevantes font qu'ils ont du mal à ajouter foi à ce que les gens disent. C'est-à-dire que quoi? Ils ne font pas confiance aux gens quand ils ont été trahis dans le passé. Ce genre de personnes-là qui sont difficiles à se remettre dans une relation quand une relation précédente n'a pas marché. Ils sont suspicieux, lorsque les gens vont vers eux et les couvrent d'affection. Le genre de personnes qui disent « pourquoi tu te rapproches de moi ?» Mais depuis, on est là, pourquoi est-ce que c'est maintenant que tu prends mon numéro de téléphone ?« Toi là, tu n'es pas clair. Pourquoi est-ce que tu me vois beaucoup d'unités comme ça ? Mais pourquoi est-ce que tu me parles gentiment ? Est-ce que je suis la seule ? Toi là, c'est pas clair. » Et ce genre de personnes-là qui soupçonnent les gens, surtout quand tu viens vers eux, que tu donnes l'affection, pour eux, c'est pas normal. Est-ce que vous êtes là ? Et le mélancolique a besoin qu'on lui dise, qu'on le désire et qu'on l'aime. Si tu ne dis pas au mélancolique, imagine que tu marques comme ça, puis toi, tu es le genre, tu ne parles pas beaucoup, tu ne dis pas tes sentiments. Le mélancolique aime qu'on lui dise, oh, tu es bien, je t'aime, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Tu es le seul moustique dans ma moustiquaire. Hein, tu es mon seul singe. Tu es mon seul, donnez-moi les mots. Tu es mon seul cafard dans la cuisine. Ils aiment ce genre de choses. Tu es mon seul sucre dans mon thé. Ils aiment ce genre de choses. Amen. Bon, je n'ai pas trop de blagues aujourd'hui, donc je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Mais vous savez, non, ils aiment qu'on puisse les câliner et leur dire « je t'aime » au moins 5 fois par jour. Mais bien aimé, laisse-moi un peu te dire, qui a le temps au 21e siècle là, pour te dire « je t'aime » 5 fois par jour? C'est pour ça que quand tu maries quelqu'un comme ça, là, look, ils vont mettre tous leurs problèmes sur toi. Est-ce que vous êtes là? Le mélancolique a du mal à pardonner. Et il choisit avec beaucoup d'attention ses vêtements, les couleurs, tout ce qu'il mange, ok? Et il est difficile dans ses choix. Et il est constamment en train d'arranger les choses. Et si quelqu'un de mélancolique marie quelqu'un comme un sanguin, la personne là, désordonnée comme la personne est, va le contrarier à chaque moment. Est-ce que nous sommes là? Donc, on a parlé un peu des forces et des faiblesses du mélancolique. Maintenant, je veux qu'on prenne le temps de pouvoir nous analyser nous-mêmes et savoir ce que nous, où nous en sommes et laisser Dieu nous transformer. Alléluia. Et je veux finir avec le dernier tempérament. Mais avant de passer au dernier tempérament, je tiens à vous dire que pour tous ces tempéraments-là, vous avez vu que vous avez des forces et vous avez des faiblesses. Il est important pour nous de laisser l'Esprit Saint nous influencer afin que nous puissions être de meilleurs chrétiens et de bons partenaires dans le mariage. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, une personne peut avoir plus d'un tempérament, mais a toujours un tempérament qui domine. Une personne peut être mélancolique, colérique, et une autre personne peut être colérique, sanguin. Une autre personne également peut avoir une combinaison de un peu tous ces trois tempéraments-là. Est-ce que vous comprenez? Le tempérament, maintenant, je finis, de phlegmatique. Les forces du phlegmatique. D'abord, phlegmatique tire son origine du nom de phleg. OK. Vous voyez, donc, quand vous avez, excusez-moi de prendre cet exemple-là, hein, mais c'est, généralement, c'est comme ça qu'on les décrit. Quand vous avez la grippe, OK, et que c'est condensé dans votre gorge et que vous voulez faire sortir ça à travers la salive, quelque chose comme ça. Si vous voulez faire sortir ça, vous allez voir que quand vous enlevez et que vous crachez dans le sink ou bien par terre, ça ne part pas aussi facilement. C'est phleg, difficile à bouger, difficile à partir. C'est de là tire le nom phlegmatique. OK? Donc le phlegmatique est l'une des personnes comme qualité, il s'entend avec tout le monde. Et c'est le plus aimable de tous les caractères. Ils sont calmes, imperturbables, et rien ne semble pouvoir les ébranler. Ils sont toujours sereins. Il y a tremblement de terre, eux, ils sont sereins. Rien ne les bouge, ils sont là. Il y a la galère, il n'y a pas la galère, eux, ils sont là, rien ne semble les ébranler. Ils sont calmes, ils sont doux, ils sont égaux à eux-mêmes tout le temps. Et il a plus d'émotions qu'il ne paraît. Et il est en mesure d'apprécier les beaux-arts. Par contre, le flegmatique, il apprécie les beaux-arts et il aime les meilleures choses de la vie. Les plus grands peintres que nous voyons, et la plupart sont des flegmatiques, Picasso et tout ce monde-là, ce sont des flegmatiques. Ils aiment les arts. Si vous voyez quelqu'un qui a tendance à aimer dessiner, quelqu'un qui a tendance à aimer... Oui, faire les tableaux et tout ça là. Il y a un côté phlegmatique qui est là. Sinon, 90% est phlegmatique. OK? Et ils aiment les meilleures choses de la vie. Et le phlegmatique ne manque pas d'amis parce qu'il aime les gens et il a un sens naturel de l'humour. Est-ce que vous comprenez? Le phlegmatique, c'est quelqu'un qui peut te pincer, mais il ne rit pas. Est-ce que vous êtes là? C'est le genre d'individu à faire mourir de rire toute une foule de personnes. Mais eux-mêmes, ils ne rient pas. Ils vont vous faire rire. Ils vont dire des choses qui vont vous faire rire. Mais là, ils sont serrés, imperturbables. Et le phlegmatique est capable de trouver quelque chose d'humoristique aux gens et à leur agissement. Et ce qui lui permet de toujours avoir un regard positif sur la vie. Pendant que toi, le COVID là, en train de se battre pour chercher à manger, toi tu es couché dans ton lit et tu trouves. Amine, ils ont cette tendance à de pouvoir voir la vie de façon positive. Et une autre chose, le phlegmatique à la foi, my goodness. Ils ont la foi, ils sont positifs. Si vous écoutez un phlegmatique, hein, vous allez dire que vous n'avez pas la foi. Ils ont la foi. Et ils sont égaux à eux-mêmes. Et ils sont très positifs. Voici pourquoi c'est rare de voir un phlegmatique qui est déprimé. Parce que je parle à des gens. Et ils ont beaucoup de mémoire. Et ils peuvent faire de très bons imitateurs. Et ils se moquent souvent des autres tempéraments. On parle des forces. Hein. Ils se moquent souvent des autres tempéraments. Les phlegmatiques ont tendance à être des spectateurs de la vie. C'est-à-dire c'est quoi? Il regarde les choses se faire, n'est-ce pas? Et il n'essaie pas par conséquent de ne pas trop, et ils essaient par conséquent de ne pas trop s'impliquer dans les activités des autres. Ils vont te regarder faire, et puis eux-mêmes là, ils sont là. Ils ne s'impliquent pas dans les activités des autres. Est-ce que vous êtes là? Et en dehors de sa routine quotidienne, le phlegmatique n'est pas facile à motiver. Est-ce que vous êtes là? Mais quand on le pousse à l'action, il s'avère capable. Et c'est alors qu'on découvre son efficacité. Il est comme un peu la tortue. La tortue, c'est quand tu mets le feu sur lui que tu vois que la tortue peut vraiment courir. Et il n'ira pas de lui-même solliciter une position de leader. Mais quand on l'y oblige, il s'avère être un leader très capable. Et il est naturellement quelqu'un qui amène la paix. Il emmène la paix. Il emmène la paix partout où il passe. Est-ce que vous comprenez? Pour lui, il va se battre. Il va faire tout pour avoir la paix. Amine, je connais quelqu'un phlegmatique qui a donné son terrain gratuitement à quelqu'un. Pourquoi? Parce que seulement, il ne voulait pas qu'il y ait des conflits entre sa sœur et quelqu'un d'autre. Donc, son terrain étant au milieu, et il a dit, OK, pour qu'il y ait la paix, je donne aussi mon terrain. Je n'ai jamais vu. Ils sont prêts à payer un prix fort pour la paix. Est-ce que vous êtes là? Les faiblesses du phlegmatique, et puis on finit. Le phlegmatique manque de dynamisme et d'ambition. Et il va rarement au-delà du statu quo, et il semble toujours faire ce qu'on attend de lui. Il prend rarement des initiatives et trouve souvent des excuses pour éviter de s'impliquer dans les activités des autres. C'est-à-dire qu'ils sont paresseux. Ils sont égoïstes, même si cela ne se voient pas souvent amis. Tu peux être avec un phlegmatique, hein. Il a la nourriture, mais il cache sa nourriture, tu ne sais pas. Il a l'argent, mais c'est pour lui-même, pas pour tout le monde. Mais tu ne sais pas. Son visage est tellement mignon que tu ne vas jamais le soupçonner d'être quelqu'un comme ça. Est-ce que vous êtes là? Et il est tellement gracieux et correct que peu de gens s'en rendent compte. Et son égoïsme le rend indulgent envers lui-même. Et il ne se sent pas concerné par le besoin d'activité de sa famille. Il déteste dépenser, dit qu'il est avare, sauf quand il s'agit de s'acheter des vêtements ou des outils pour son travail. Donc, il n'aime pas dépenser. C'est des gens qui n'aiment pas contribuer à ce qui se passe dans la maison. Ils n'aiment pas s'impliquer à ce qui se passe dans la maison. Ils sont juste là, comme des flègues. Et il n'a pas plus entêté qu'un phlegmatique. Ils sont têtus. Mais vous savez, ils sont tellement diplomates que personne ne s'en aperçoit. Ils ne s'opposent jamais ouvertement aux gens et ne refusent jamais de faire quoi que ce soit. Mais ils s'arrangent plutôt. Ils s'arrangent d'une manière ou d'une autre pour ne pas faire ce qu'on lui demande de faire. Voici pourquoi on dit qu'il est têtu. Il ne fait pas ce qu'on lui demande de faire. Mais il trouve la manière. Parce que vous êtes là. Dans le contexte de la famille, il ne crie pas. C'est-à-dire que si tu maries quelqu'un qui est phlegmatique, tu ne vas jamais l'entendre crier. Mais il traîne les pieds et il refuse de bouger. Et s'ils sont mariés à quelqu'un de plus agressif, son style devient passif, détaché. Est-ce que vous comprenez? Et quand c'est comme ça, ça irrite l'autre tempérament. Les sanguins et les colériques en particulier ont du mal avec les conjoints phlegmatiques parce qu'ils sont habitués à prendre des décisions rapides et vives. Un phlegmatique peut être pris pour un chrétien même quand il est incroyant. Il est poli et diplomate en ce qui concerne l'expression de son ancienne nature pécheresse. C'est-à-dire qu'il est tellement diplomate, vous pouvez le voir, vous pouvez dire « Ah, oh, lui là, il est sauvé, tellement il est diplomate. » Et l'une de ses plus grandes faiblesses est qu'il n'a pas de motivation ou bien même trop peu, ou bien très peu de motivation. Il a peur au fond de lui-même. Et c'est cette peur-là qui est à l'origine de beaucoup de problèmes. Et je veux aussi dire qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont pas confiance en eux. Les phlegmatiques ont tendance à remettre les choses à demain. Ils procrastinent. Ils reportent à demain encore, et ils ne font pas les choses. Ils reportent encore et encore à plus tard. Le phlegmatique a tendance à être lent et méthodique dans sa prise de décision. C'est-à-dire que tu vas le forcer à prendre une décision. Look, il va prendre son temps, je ne sais pas, à penser à quoi, et il ne fera pas. Est-ce que vous êtes là? C'est qu'il peut faire que les autres tempéraments vont être fâchés contre lui. Parce que il prend du temps. Dans le cadre du mariage, il est très facile pour un phlegmatique de laisser son conjoint, ok, qui est plus fort normalement et plus énergétique, la responsabilité de prendre des décisions. Est-ce que vous êtes là? Côté finance, c'est une personne qui manque de motivation et il y a très peu de chances qu'il réalise de grandes choses. Donc, l'évêque d'Ag a l'habitude de dire que les phlegmatiques meurent pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne réalisent pas grand-chose. Et il se peut qu'ils ne soient jamais riches et ils ne réussissent pas et qu'ils ne progressent pas dans la vie. Il peut parfois se montrer avare et ne pas ramener quelque chose à la maison. La vie sexuelle, côté sexuel, on parle maintenant des faiblesses, ok? Côté sexuel, il manque de motivation et ils acceptent tout ce qu'on lui offre. Il est plutôt quelqu'un qui est toujours en retrait. Côté communication et communion, il y a peu de chances qu'il communique ce qu'il convient. Il peut par exemple se montrer diplomate aux dépens de sa famille et il s'endort dès qu'il s'assoit. Il y a très peu de chances qu'il emmène sa famille faire une sortie. Donc tu as marié un phlegmatique, toi tu vois le monsieur, tu te dis « Oh non !» J'ai eu l'homme de ma vie, je l'aime, il est doux, il est calme, il n'est pas bavard. mais je veux aussi te dire que le monsieur, il ne va pas t'amener sortir. Oh. Il ne va pas s'occuper de toi. Communication, il ne va pas le faire. Vie sexuelle, il est paresseux. Je pouvais te dire ça dès maintenant. Côté émotionnel, il est craintif ou bien elle est craintive à l'égard de beaucoup de choses. Et il est quoi? Ils sont sujets à l'inquiétude. Le flegmatique se laisse diriger par son conjoint. C'est comme ça qu'ils sont. Côté spirituel, ils manquent de motivation et ils sont détachés. Et ils manquent de quoi? Ils manquent d'engagement, même s'il est fidèle. Il n'est pas du genre à initier ou créer quelque chose. Il ne va pas du tout créer quelque chose. Il est là. Je vous dis, comme la morve qui sort de la gorge, là, il est là, il ne bouge pas. Côté engagement, sa fidélité peut aller dans plusieurs directions. Mais il parvient joliment et diplomatiquement à trouver l'équilibre. Il n'est pas forcément attiré par quelqu'un. Il faut le connaître pour savoir ce qu'il a vraiment dans le cœur et où va sa loyauté. Il est avec toi, hein? Il va te regarder, il peut t'encourager, mais sa loyauté et sa fidélité ne va pas forcément aller avec toi. Peut-être que c'est quelque part d'autre que son cœur est. C'est le genre de personne, ils sont là avec toi, ils sont mariés et ils peuvent avoir une deuxième famille quelque part, tu ne vas jamais savoir. Tu ne vas jamais savoir, pourtant tu as ton mari, tu as ta femme. Mais son cœur est quelque part d'autre. Est-ce que nous sommes là? Côté foyer, il remet les choses à plus tard. Et il ne fait pas des choses importantes. Il prend son temps pour faire les choses et il est têtu. Côté relation, il se peut qu'il ne fasse jamais de demande en mariage et ne se marie jamais. Vous voyez, il y a des frères qui tournent autour des sœurs là. Ils sont là, d'ouvrir la bouche pour parler. Ils ne disent rien jusqu'à quand il y a d'autres personnes maintenant qui viennent poser la sœur en mariage. Et puis après, maintenant, c'est eux qui sont frustrés. Et ils ne sont pas du genre, quand ils se marient, à discipliner les enfants. Est-ce que vous êtes là? Mais leur attitude, ils sont gentils et ils ne se mettent pas en colère. Et ils savent obtenir ce qu'ils veulent. Si c'est côté autorité, ils refusent de prendre le devant des choses. Ils refusent de décider. Ils refusent d'être des leaders. Est-ce que vous êtes là? Et ils sont, comme ce que j'ai dit, ils sont têtus, ils sont égoïstes, ils sont diplomates, ok? Ils sont aussi avares. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il peut se murer dans le silence si les choses ne marchent pas. C'est-à-dire que quoi? Lui, il décide de se retracter dans son coin quand les choses ne marchent pas. J'ai pris le temps aujourd'hui de pouvoir parler des tempéraments parce qu'il est important que tu te connaisses. Et par la grâce de Dieu, quand nous allons nous revoir, je vais vous dire comment est-ce que l'Esprit Saint peut influencer ton tempérament, ok, afin que tu deviennes une meilleure personne. Parce que c'est Dieu qui t'a créé avec des qualités et avec des faiblesses. Et c'est lui qui sait comment il peut t'influencer afin que tu laisses l'Esprit Saint prendre le contrôle de toi et t'aider à devenir meilleur. S'il a pu le faire pour Pierre, il pourra le faire pour toi. Donc voici les 4 tempéraments de base. Mais la prochaine fois, je vais prendre le temps de pouvoir donner une combinaison et prendre beaucoup d'exemples. Aujourd'hui, ce n'était que l'introduction au tempérament et te dire que il y a ta manière d'être ou bien tes actions ou bien ce que tu es n'est pas quelque chose qui n'est pas commun. Tout est commun parce qu'il y a 4 tempéraments de base, mais il peut avoir également un mélange de tempéraments. Voici pourquoi quand on dit que je suis les flegmatiques, tu te retrouves pas et tu te retrouves un peu. Mais bien aimé, il est important qu'on puisse se connaître afin de pouvoir savoir qui on va choisir et de savoir aussi pourquoi est-ce que vous êtes attiré par un type de personne. C'est à cause de votre tempérament et de savoir que ce que vous êtes, c'est l'opposé complètement qui va vous tirer. Et je viens encourager quelqu'un aujourd'hui et dire, j'espère que tu as appris quelque chose et que tu vas demander au Seigneur de t'aider Alléluia, les tempéraments, c'est réel. Mais tu as quelque chose en toi que Dieu veut utiliser et tu as quelque chose en toi qu'il veut remplacer. Laisse Dieu te visiter, laisse Dieu te fortifier, laisse Dieu te guider et tu ne seras pas déçu. Alléluia. Prions. Seigneur, merci pour cet enseignement. Je te demande de pouvoir nous révéler profondément nos faiblesses individuelles. Nous t'invitons, Saint-Esprit, à venir prendre le plein contrôle. Viens nous changer, viens nous aider et viens nous aider à devenir meilleurs au nom de Jésus. Merci parce que nous te soumettons les faiblesses de nos tempéraments et nous te demandons ta pleine implication dans nos vies et dans nos tempéraments. Nous prions au nom de Jésus. Si tu reçois cette parole-là, dis Amen. Et je ne peux pas finir sans toutefois prier avec toi. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Fais cette prière-là après moi. Dis, Père éternel, je te dis merci. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi tous mes péchés. J'accepte ton Fils Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, viens et règne en maître dans ma vie. Délivre-moi de tout mal et que ta volonté se fasse dans chaque aspect de ma vie. En ton nom, Seigneur Jésus, j'ai prié et je dis Amen.
Merci d'avoir écouté ce message. J'espère que cela t'a fait du bien. Rassure-toi de souscrire afin que tu reçoives tous les messages. Sache que nous prions pour toi. Dieu te bénisse.